Bienvenue au Bagarre Club, là où chaque coup compte. Au programme, débats, pronostics et débriefs de combat, interviews, mais aussi retours nostalgiques sur les plus grands moments des arts martiaux mixtes. Bagarre Club, l'émission qui décrypte l'actualité MMA, c'est maintenant et jusqu'à 20h sur Prune.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Bagarre Club, votre émission 100% MMA, 100% bagarre tous les mardis soirs. On est de retour pour une semaine de plus, pas une semaine de trop, et pour m'accompagner pour cette émission, Hugo est avec moi. Comment vas-tu, Hugo ?
Eh bien, ça va très bien. Tu vas en parler après, je pense, mais je remplace Nora qui n'a malheureusement pas pu être là ce soir.
Donc retenu par les cours, voilà. Licence master de droit, c'est ça ?
C'est master de droit.
Master de droit. Prend du temps. Hein, comme quoi, il y a des masters qui prennent du temps.
Mais voilà. Alors déjà ça, hein, calmos. J'ai plus de temps pour le grind, pour devenir champion UFC.
Oui,
ça doit être ça. Lounis est également avec nous. Le grind pour devenir champion UFC, Lounis, t'en es où?
J'y suis pas. Mais par contre, j'ai concocté une très belle, je l'espère, une très belle chronique mythique. Donc ouais, je suis très content d'être présent cette semaine avec vous.
Eh ben, on a une émission un petit peu plus tranquille que les dernières, parce que c'est vrai que les dernières étaient chargées en actualité, hein. L'UFC 299, Baki Doumbé, tout ça. C'est fini, on va arrêter de parler, on va mettre ça un petit peu de côté. Émission plus tranquille aujourd'hui. On a quand même une petite actu UFC avec la Fight Night qu'il y a eu donc dans la nuit de samedi à dimanche chez les poids lourds. On parlera donc de la 4e défaite d'affilée de l'Australien Tai Tuivasa. Ensuite, comme Lounis l'a dit, petite chronique mythique, je vous ne dis pas encore sur quoi ça portera, mais on va être sur du vintage.
Oui.
Pour cette fois. Donc,
De la vieille école bien, bien classe.
Voilà, exactement. Et enfin, on terminera l'émission par un petit quiz, voilà, qui opposera Hugo et Lounis. Je rappelle quand même que je suis le tenant du titre. Et j'ai créé ce quiz pour savoir qui aura la chance d'essayer
l'honneur,
m'affronter lors d'un combat pour le titre du quiz du Bagarre Club.
Donc en fait une séance très agitée aujourd'hui. C'est juste qu'on n'a pas beaucoup d'infos à couvrir, mais
on n'a pas beaucoup d'actu, mais on a quand même des choses.
Mais
au programme.
Voilà, grosse
belle émission.
Grosse émission aujourd'hui.
Belle émission, tout à fait. Et ben justement belle émission. Donc on va pas attendre plus que ça et tout de suite on commence avec les actus.
How much can you know about yourself? You've never been in a fight. Les actualités MMA de la semaine dans le Bagarre Club.
L'actu principale, donc, j'en ai parlé juste avant, c'était le combat chez les poids lourds entre Tibura et Tai Tuivasa, le combattant australien. Combat qui s'est soldé par une victoire de Tibura par soumission dès le round 1. Voilà, un combat qui n'a pas duré très très longtemps. Nouvelle défaite pour l'Australien Tai Tuivasa. Quelle conclusion on en tire tout ça, Lounis ?
D'un côté, c'est assez frustrant pour Tai Tuivasa parce que quand on regarde la première partie du round, donc où a eu lieu cette soumission, bah, il a réussi quand même à toucher salement Tibura plusieurs fois. Et bon, on aurait pu imaginer qu'il allait le mettre KO comme il l'a fait contre Greg Hardy et puis après contre Derrick Lewis. Mais finalement, en fait, cette défaite elle témoigne de quelque chose chez les poids lourds, et enfin surtout dans cette catégorie-là, c'est que comment dire, avoir une grosse corpulence et comment dire une sacrée force de frappe, parce que Tai Tuivasa, c'est un peu comme Derrick Lewis, et puis
pour une Sergei Pavlovitch aussi.
Sergei Pavlovitch, mais Pavlovitch, il est un peu différent. Être juste extrêmement corpulent et avoir une énorme, comment dire, force de frappe, ça suffit pas, en fait, pour.
Ça suffit plus.
Ça ne suffit plus pour affronter, justement, le haut de la catégorie, justement, des heavyweights, donc des poids lourds. Parce que là où Pavlovitch, il a probablement pas un niveau au sol extraordinaire, mais il arrive justement à l'inverse de Tai Tuivasa à combler sa part vraiment des mouvements et une mobilité qui est très très qui est très juste, très à propos. Tai Tuivasa, non, c'est bah, malheureusement il est assez lent, il utilise trop peu justement ses kicks, ou on va dire il a un arsenal de striking assez limité, et là on l'a vu, bah, il s'est fait complètement essorer en lutte, et donc il a fini par se faire soumettre et étrangler par Tibura.
Hugo, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ce combat et plus généralement de voilà les quatre défaites d'affilée de Taï Tuivasa?
Oui, c'est ça qui m'embête un peu, c'est que on l'a un peu
découvert.
Bah en fait c'est ça, c'est on l'a découvert dans son combat face à Cyril Gane pour le tout premier UFC Paris.
Il n'y a personne qui l'a découvert contre Greg Hardy. Putain, les gars, vous avez loupé un truc.
Non, mais on était encore débutants. À ce moment-là, quand il a fait son combat contre Cyril Gane, on était un peu. On avait commencé à regarder, quoi. C'était il n'y a pas.
C'était il y a deux ans et demi.
Ouais, c'était il y a longtemps. Ouais. Mais bref, déjà, moi, il y a un truc qui.
Un an et demi, pardon.
Qui me pose problème, c'est que je ne pense pas que sa corpulence ait quelque chose à voir là-dedans. Et même son style en soi, ça a marché sur le début du round, dans le sens où il a ouvert Marcin Tibura.
Non, c'est ce que je dis. Il
dans les premiers échanges, mais il lui a ouvert le haut du front. Voilà, donc en fait, il a eu beaucoup de succès debout, mais par contre, il y a un truc, c'est que quand tu vas au sol, c'est pas possible. Faut vraiment bosser soit sa défense de lutte, soit son sol, soit les deux. Mais là, en fait, il y a encore trop d'erreurs qui sont faites et c'est pas possible. Faut vraiment aller faire un stage au Daguestan, là. Non, mais je dis ça en rigolant, faut bosser le sol, là, parce que c'est pas possible. Ouais. Beaucoup
donc,
trop limité au sol.
Un Taï Tuivasa trop limité pour aller titiller un petit peu le haut de la catégorie.
On a envie qu'il gagne. Hein, mais...
ouais. Et il a pas, me semble-t-il, il a pas non plus, justement, une... Même si je le trouve très sympathique, hein, c'est pas du tout, je blâme pas, mais il a pas, j'ai l'impression, un menton ou même, on va dire, une force physique dans la manière justement de peut-être de retourner les phases au sol à son avantage, comme avait pu le faire Mark Hunt pour justement tenir dans la catégorie des poids lourds. Je l'enterre pas du tout, je pense qu'il peut encore se reprendre en main.
Il y a des améliorations à faire.
Voilà, parce qu'il est encore jeune et il peut tout à fait s'améliorer. Mais par exemple, rien qu'on. Enfin. Si je l'imagine contre Volkov, j'ai pas.
Bah, il a perdu contre Volkov.
Bah oui, voilà, ça a, ouais. Ça a déjà
soumission, soumission voilà. Deuxième round.
Ouais, j'avais fait, complètement ouais. Oublié, mais ouais, voilà.
Ouais, donc moi je trouve, du coup, de ce qu'on a dit, en fait, je trouve que ça témoigne, et c'est un débat qu'on va rentrer un petit peu plus, dont on va rentrer un petit peu plus dans le détail après, ça témoigne aussi d'un changement un petit peu dans la catégorie, changement de style aujourd'hui. Comme l'a dit Lounis, être juste quelqu'un d'assez costaud, assez lent, mais avec une grosse puissance de frappe, ça suffit plus à l'UFC. Et on a de plus en plus des profils de combattants beaucoup plus complets, beaucoup plus mobiles, beaucoup plus affûtés physiquement.
Bah, je pense que c'est surtout qu'il est tombé contre deux, je vais pas dire lutteurs, mais en tout cas deux poids lourds qui ont un bon sol en la personne de Alexander Volkov et Marcin Tibura.
Bien sûr, mais même.
À part ça, le top de la catégorie. En fait, c'est...
Ouais, mais même, bon, tu vois,
c'est
avant...
le problème avec le MMA, c'est que c'est toujours plusieurs arts martiaux, mais en termes de striking pur, Taï Tuivasa, bon, il est tombé contre Pavlovic, donc bon, tu peux pas faire grand-chose contre Pavlovic, mais à part ça, enfin, il a très bien tenu tête face à Cyril Gane, enfin, il a un striking qui lui permet d'aller haut, Taï Tuivasa, mais là, s'il tombe contre des combattants complets, ça va être très compliqué, en fait, ou des combattants qui ont un minimum de sol.
Oui, non, mais même striking, hein, ce qui lui a coûté la victoire contre Cyril Gane ou contre Pavlovic, c'est vraiment ce manque de mobilité, ce manque de.
C'est ça.
Et c'est mais trop limité, Arsenal.
Ça marchait avant.
Ouais, mais ça oui, marchait mais contre ça, des gens, non, contre justement. Des gars qui avaient le même profil que lui.
Et Pavlovic. Mais non, mais. Jusque...
Oui, mais parce que Pavlovic, comme je l'ai dit plus tôt, il a une mobilité et justement un pouvoir d'accélération qu'a pas Taï Tuivasa. Ouais. C'est ça qui le rend aussi redoutable, c'est qu'il est capable vraiment de presser, de se hâter comme ça sur son adversaire. Qui est, je crois qu'il n'y a que aller à Spinal qui a ça, on va dire, et qui a la faculté de mettre KO.
Dimension.
D'être aussi rapide tout en pouvant mettre KO, je crois qu'il n'y a que lui dans la catégorie.
Ouais, tout à fait. Vraiment la capacité de changer de rythme, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que ça, tu dis que ça marchait avant, mais ça marchait avant contre des profils similaires à lui. Derek Lewis, typiquement. Voilà, c'est le même genre.
C'était très divertissant, quand même.
Ah oui, tout à fait. Et on voit, en fait, tous ces gars-là, les Derek Lewis, Taï Tuivasa, petit à petit, ils reculent dans les classements, justement parce qu'ils sont
des lutteurs et des...
Parce qu'il y a des lutteurs et parce qu'il y a une nouvelle génération striker et ceux qui arrivent, tout simplement.
Bah ouais, t'as raison.
Donc avec tout ce mouvement, du coup, dans la catégorie des poids lourds, on va se demander qu'est-ce qu'on fait pour le français Cyril Gane, tout simplement. Parce que ce qui se passe, c'est que...
Il s'est mis dans la panade.
C'est ça. Ce qui se passe, c'est qu'après l'UFC Paris 2, Tom Aspinall, qui à l'époque n'était pas champion intérimaire, voulait affronter Cyril Gane. Cyril Gane a refusé. Cyril Gane a également refusé Curtis Blaydes, qui actuellement est cinquième de la catégorie.
Bah en fait, il a refusé
et
tout
qui
le monde.
Est en train de monter. En fait, il refusait tous les gens qui étaient en dessous de lui.
Voilà. Il voulait son title shot.
C'est ça. Et il se trouve que bon, bah, l'UFC en a décidé autrement. Et là, du coup, il se retrouve un petit peu piégé. Il ne sait plus quoi faire parce que les gars qui voulaient l'affronter,
bah, maintenant ils disent bon, bah, tu voulais pas m'affronter quand j'étais en dessous de toi. Maintenant que je suis un prétendant au titre et que dans un combat entre nous deux, ça déterminerait le prochain title shot, bah non, j'ai plus envie de t'affronter. Tu m'as snobé avant. Maintenant, c'est moi
qui te snob. À la rigueur,
c'est celui auquel
pense,
j'ai pensé en premier.
Ouais, Pavlovitch, il pourrait. Ouais,
ça pourrait être intéressant parce que, comme je l'ai dit plus tôt, c'est pas. Passez-moi l'expression, c'est. Mais c'est pas juste un gros sac, enfin c'est pas un sac de frappe comme comme Derrick Lewis ou Tito Ivasa.
J'aurais peur pour Cyril Barrand.
Non mais justement, Pavlovitch, il est vraiment beaucoup plus véloce, beaucoup plus mobile et il a un knockout power que en tout cas, il a vraiment un profil, je crois que Cyril n'a pas rencontré jusqu'à présent et ce serait intéressant de voir Cyril
Taito Ivasa mais
n'est pas comme ça.
Sergey Pavlovitch, c'est Taito Ivasa mais avec des stats boostés en fait.
C'est ça.
Ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'il y a Sergey Pavlovitch. On peut penser, pourquoi pas, à des gars un petit peu plus en dessous. Pourquoi pas Tibura. Pourquoi pas Almeida. Mais Almeida, il ressort d'une défaite. Ouais, il est déjà derrière. Donc, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu.
Almeida.
Et surtout, il faut toujours penser aussi à l'organisation d'événements pour l'UFC. L'UFC, ils se disent, s'il y a un truc à Londres organisé dans pas longtemps, une revanche à Spinal Blaydes, bah déjà, hop, les deux, c'est pas pour Cyril, les deux, ils s'affrontent entre eux et Cyril, il se retrouve avec personne. Donc, voilà, c'est des choses qui, en fait, ses potentiels adversaires sont déjà pris ou alors sont pas vraiment chauds pour le combattre. On va pas parler de John Jones et Stipe Miocic, on attend leur combat depuis un an et demi, on sait même pas si ça se fera un jour. Voilà. Donc, c'est vrai que là, tout de suite, parmi les combattants qui sont plutôt dans sa zone de classement et qui seraient disponibles, c'est vrai que Sergey Pavlovitch me semble être le combattant propice.
Bah, donc, et puis c'est celui qui fait le plus sens, quoi.
Ouais, c'est ça. Hein. Globalement, les deux sont assez hauts. Les deux. Alors, Sergey Pavlovitch, avant de se faire battre par KO par Aspinall, il était quand même sur une très très grosse série de victoires et très grosse série de KO. Et là, c'est vrai que ce sera intéressant pour Cyril. Ce sera un vrai test. Et même aussi au point de vue du public, je pense que affronter et s'il venait à battre un mec aussi dangereux que Pavlovitch, je pense que ça lui permettrait un petit peu de redorer son blason,
parce que là,
de reprendre un petit peu en popularité, parce qu'il a beaucoup souffert de ça ces derniers temps.
En France et à l'international, à l'international, ça se moque beaucoup de lui parce que bah il est coincé, parce qu'il refusait tout le monde en dessous de lui. Et c'est un peu dommage d'ailleurs parce que pour le coup, il s'est un peu, excusez-moi l'expression, mais il s'est un peu mis dans la merde tout seul. Là.
Ah oui, tout à fait. Ouais, et c'est pour ça, je pense, aller chercher un Pavlovitch, ça permettrait un petit peu de remettre l'église au milieu du village et de montrer à tout le monde qui est le boss en France.
Ça n'existe pas, cette expression.
Bah si.
T'es jamais allé en Vendée pour penser que c'est pas une vraie expression.
Je refuse. Je refuse.
donc voilà un petit peu pour ce qu'on pouvait dire sur Cyril Gane, sur les poids lourds. Rien à rajouter, les gars.
Non, je pense que c'est bon. Non.
Ouais, bah voilà.
Que va faire Taito Ivasa maintenant?
Taito Ivasa, ça c'est une très bonne question.
Une revanche contre Derrick Lewis?
Ouais.
Déjà, si le combat était cool, honnêtement.
Honnêtement, le combat était drôle, quoi. C'était vraiment. Les deux maçons qui sortent du travail et qui se tapent sur le parking, quoi. Mais c'était vraiment marrant pour le coup.
Ouais, mais pour moi, pour qu'il y ait une revanche, il faut qu'il y ait un intérêt sportif un peu plus
là,
grand.
Là, il n'y en a pas. C'est juste marrant à regarder.
Je pense qu'il n'y en a rien. Parce que Derrick Lewis, il a recommencé à se mettre, il est sur une série de victoires, non?
Bah peut-être Robespierre.
Non, il a perdu contre Almeida.
Mais justement,
perdu par câlin contre Almeida.
Laisse-moi aller dessus justement, parce que on commence à connaître un petit peu Dana White, et Dana White, ils aiment bien envoyer des mecs un peu sur le déclin au charbon pour faire monter des nouvelles stars. Et en nouvelle star, on a vu à l'UFC 299 Robelis Despain, qui a mis KO en 20 secondes son adversaire. Et je me dis, il pourrait le faire, l'UFC, mettre Robelis Despain contre Taito Ivasa, permettre à Robelis de passer dans le top 15 de la catégorie, de se faire un nom.
C'est Taito Ivasa. C'est peut-être une grande marche quand même. Peut-être contre Rogerio de Lima. Ouais, non, faut le mettre contre des strikers. Ouais.
Mais justement, en plus,
Romanov.
On en parlait en termes de style, mais peut-être ce serait compliqué pour Robelis Despain. Mais Taito Ivasa, c'est typiquement le genre de profil qu'il va apprécier.
Ah oui.
Différence c'est d'allonge. Vrai. Vraiment, vrai. Il a juste à le travailler tranquillement à distance et tout.
Non, non. Et... Il va pas le travailler à distance. Ouais, il va lui mettre une patate.
Voilà.
Oui, non, non, c'est vrai. Mais voilà, je me dis, connaissant l'UFC, il serait capable de faire ça. Ce serait peut-être un peu tôt pour Obelis Despain. Mais
moi, je pense que c'est un bon combat à faire, honnêtement.
C'est ça. Mais surtout, en plus, c'est pas comme si les poids lourds, c'était une catégorie extrêmement bouchée dans le bas du top 15 ou à l'entrée. Donc,
non, c'est le haut qui bloque en ce moment, ouais, mais pour des raisons qui ne dépendent pas des combattants.
Il y a une différence assez stratosphérique entre le haut et le bas du top 15.
C'est... Ouais, tout à fait. Ouais. Je trouve qu'à partir de... voilà. Ouais, c'est ça. À partir de quoi ? C'est Almeida, tout ça.
Attends, je regarde... Ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, à partir de la fin du top 10, t'as du coup Tai Tuivasa, Rosenstruik, Derrick Lewis, Alexander Romanov, ouais, Delima et Nascimento.
Ouais, bon.
Qui est Nascimento ? Aucune idée.
Personne. Hell is that guy.
Non, mais c'est vrai que autant on parlait du mouvement chez les poids lourds ces derniers temps, le haut du classement est très intéressant. Aspinall, Pavlovic, Gigan, même John Jones, Stipe Miocic et tout.
Vraiment, Curtis Blaydes.
Curtis Blaydes, voilà. On a du très très haut niveau. Mais c'est vrai que voilà, y a vraiment le creux entre, comme Max Hugo, le haut et le bas du top 15. Voilà du coup un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les poids lourds de l'UFC, sur le combat entre Martin Tibura et Tai Tuivasa. On va faire la première petite pause musicale, on va s'écouter Her Name de Cormega et on revient juste après pour la chronique mythique de Lounis. A tout de suite. I wrongfully assumed you belonged to me. I was sick and came with recovery. Fuck a king, it was guru that provided you. A moment of truth is undeniable. You've been lied to, but such things inspire you. People who admired you no longer invest time in you. Ungrateful to those who helped raise you. Can't build without a foundation. Selfish ain't self-preservation. Crawl before you want momentum, cause of elevation. He who dumps you down to rise won't stay true. Or see earth different from dirt and cultivate you. Ain't feeling the lies, embrace truth. I present the opposite of ignorance, common sense. You're confused, you refuse to let knowledge in, which ruins evolution. Your future was once promising. You let yourself go, which proves you're less confident. It's obvious people hoping you return to prominence are skeptical. I'm guessing too many broken promises. You can't ignore the roots if you have hopes of blossoming into a fine person. Won't go to a lounge which you had a queen's respect and a fresh prince was fond of you. Was live at the barbecue. Now your native tongue is numb from you know what. That's why people frown on you. Haven't earned respect other genres do. Billboard can see something's wrong with you. Gay sound scanner, fake number two. Lies multiply but succumb to truth. I'm standing up for what I believe in. You want fame, any up like M.O.P. did. Prestige is an illusion, never let it change. You on the road to nowhere if you forget where you came from. What's her name, son? What's her name, son?
Bagarre Club.
On est de retour en direct sur Prune, vous écoutez toujours le Bagarre Club. On a déjà parlé un petin peu des actus du combat entre Martin Tibura et Tai Tuivasa. Et tout de suite, sans plus attendre, on va passer à la chronique mythique de Lounis. Est-ce que c'est bon Lounis ? Tout est bon ? Tout est prêt ?
On est bon, on est parti.
Et bien sans plus attendre, jingle.
La chronique mythique dans le Bagarre Club.
Quand votre travail consiste littéralement à taper quelqu'un dans une cage pendant 20 minutes, avoir un surnom un tant soit peu effrayant, c'est très utile. Typiquement, si vous avez opté pour le tueur à la hache, votre adversaire demandera probablement la permission de vous affronter à son dentiste avant d'accepter le combat. Et à contrario, si votre surnom de combattant de MMA professionnel est « bon gamin », votre adversaire présumera qu'il ne faudra pas plus de 3 minutes pour réussir à vous étrangler, à juste titre. Maintenant, imaginez un peu que vous soyez russe, que vous vivez au fin fond de la Sibérie, que vous ne parlez pour ainsi dire jamais, qu'on vous compare ouvertement à Hannibal Lecter ou au Terminator, et que votre surnom de combattant de MMA professionnel est « le dernier empereur ». Mesdames, messieurs, après un certain nombre de chroniques mythiques, je crois qu'il est temps de vous introduire à ce qui est probablement la figure la plus mythifiée du MMA poids lourd. J'ai nommé le russe Fedor Emelianenko. Fedor, c'est beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est surtout un record. 10 ans d'invincibilité chez les poids lourds, une catégorie où le moindre pas de côté peut tout faire basculer. 10 ans à rester actif au plus haut niveau, sans être dopé, sans esquiver qui que ce soit, et en défendant son titre de champion du monde à 6 reprises. Avec un exploit pareil, les combats légendaires ne manquent pas, mais comme le veut le dicton, c'est à ses adversaires que l'on reconnaît un grand champion. Et en l'occurrence, un grand empereur. C'est pourquoi j'ai choisi de vous présenter Fedor Emelianenko au travers de son choc face au meilleur striker poids lourd des années 2000, le croate ex-membre d'une unité antiterroriste, Mirko Filipovic, dit Krokop. Krokop, je ne vais pas épiloguer longtemps sur lui parce que toute sa carrière se résume en ce doux proverbe « jambe droite, hôpital, jambe gauche, cimetière ». Il n'y a rien de plus à savoir sur Mirko Krokop. Durant sa carrière, il a décapité plus de types avec ses high kicks que Robespierre pendant la terreur. Ainsi, vous imaginez bien que le 28 août 2005, lorsque le combat tant attendu entre les deux monstres prend place à Saitama au Japon, tous les fans et observateurs de la planète ont leurs yeux rivés sur cet affrontement que l'on qualifie même de « choc de la décennie ». C'est sans doute l'un des combats de MMA à générer une telle attente et, pour le dire franchement, une hype sans précédent dans l'histoire des arts martiaux mixtes. Avant de nous plonger dans ce combat, j'aimerais rappeler que selon les règles du Pride, la ligue où prend place l'affrontement, le premier round dure 10 et non pas 5 minutes et les coups de pied et genoux sur un adversaire à terre sont autorisés. Fedor mène la danse durant les premières minutes du combat. Il avance patiemment vers son adversaire, prenant garde à ses kicks monstrueux et veillant à préserver une certaine distance entre eux. Krokop se montre plus passif, mais non moins dangereux. Il assène à Fedor un premier kick au corps. L'empereur russe bloque ce premier coup, son éternel air impassif cachant une évidente méfiance. Il n'aura pas le droit à l'erreur s'il entend faire tomber le titan croate et devra prendre de sages décisions tout au long du combat. Les premiers échanges mettent en valeur le plus grand atout de Fedor, son extraordinaire vélocité. Il est en effet beaucoup plus rapide et mobile que ses homologues chez les poids lourds, ce qui pose de réels problèmes à Mirko Krokop pour le toucher. Ce dernier est contraint de tempérer ses accélérations et ses bourrasques de coups en reculant, ce qui l'empêche de développer une véritable stratégie offensive. Fedor connecte plusieurs fois par le biais de ses puissants crochets et Krokop remercie son menton d'être aussi solide. Le croate parvient à atteindre le russe avec un direct bien placé, mais il en faut bien plus pour déstabiliser le dernier empereur. Une ruade hâtive de Krokop offre à Fedor l'opportunité de le renverser, ce qu'il fait poursuivant le combat au sol. En plus d'être particulièrement rapide et intelligent lorsqu'il combat, Fedor est également spécialiste du ground and pound, un pan du MMA qui consiste à labourer de coups son adversaire lorsqu'il est au sol. Je crois que vous commencez à comprendre dans quel bourbier est tombé Mirko Krokop. Fedor est blessé au visage, mais c'est lui qui possède une position dominante sur son adversaire. Et il le maintient au sol pour l'empêcher de mobiliser la puissance de ses kicks. Malgré son désavantage, Mirko Krokop ne reste pas immobile et larde Fedor de coups au visage et au corps, tout en essayant de se protéger du mieux qu'il peut. J'ai oublié de le préciser, mais vraiment, le moindre bruit de coup de poing donne l'impression d'être celui d'une batte de baseball pendant ce combat. Les trois dernières minutes du premier round voient Krokop être bombardé de frappes par Fedor. Il essaye du mieux qu'il peut de préserver sa garde et de chercher une alternative. Mais la pression du russe et le raz-de-marée qu'il déchaîne sur lui semblent trop forts. Tandis que s'ouvre le deuxième round et que Krokop se prépare, tout muscle tendu, à repousser les amener au sol de Fedor, ce dernier surprend le monde entier en se jetant littéralement sur lui comme un guerrier kamikaze. Il ignore la menace que représentent les fameux kicks de son adversaire. Pire encore, il lui en envoie un de plein fouet, comme pour lui signifier que son domaine de prédilection ne le sauvera pas cette fois-ci. Krokop semble abasourdi, mais il reprend aussitôt ses moyens et touche Fedor avec un somptueux middle kick en plein dans le foie. S'il arrive à rester debout et conserver une distance optimale, alors peut-être le croate pourra-t-il trouver une ouverture meurtrière afin d'abattre l'empereur. Mais Fedor, bien sûr, en immense stratège qu'il est, comprend désormais les intentions de son adversaire et entend les contrer durant tout le reste du combat. Au cours du troisième et dernier round, Fedor conserve un avantage considérable sur Krokop, qui malgré sa vaillance semble totalement dépassé par l'intelligence et la robustesse du dernier empereur. Fedor l'empêche continuellement de se relever et de déployer toute l'ampleur de son arsenal, et le guerrier croate est contraint d'abdiquer face à une telle pression et à l'endurance stupéfiante du russe. Une fois le combat terminé, Fedor aide Krokop à se relever et lui offre une accolade silencieuse, son geste témoignant déjà du respect qu'il porte à Mirko Krokop. Les deux hommes n'auront jamais l'opportunité de s'affronter à nouveau, et ainsi on ne peut qu'imaginer ce qu'aurait donné une revanche entre ces deux monstres sacrés du MMA poids lourd. Sur un total de 40 victoires, Fedor Emelianenko ne compte que 7 défaites, après être resté une décennie entière au plus haut niveau du sport. Il est en grande partie responsable de la popularité qu'a acquis le MMA au Japon, en Russie et en Corée du Sud, et de l'aveu même de Khabib Nurmagomedov, de Georges St-Pierre et de Joe Rogan, il était probablement à son apogée le combattant de MMA parfait. Sa carrière, sa personnalité et ses facultés martiales ont fait de lui une figure quasiment mythologique dans le monde des arts martiaux mixtes. J'en tiens pour preuve le 7 septembre 2023, date à laquelle Electronic Arts annonce en grande pompe la sortie du UFC 5, son jeu vidéo phare sur le MMA. À la fin de la bande-annonce, on découvre John Jones, tout juste sacré champion de la catégorie poids lourd de l'UFC en janvier 2023, s'approcher du centre de l'octogone pour faire face à son adversaire, qui n'est autre que Fedor. C'était la chronique mythique sur Fedor Emelianenko contre Mirko Krokop, et je vous remercie de votre écoute.
Merci Lounis pour cette belle chronique. Voilà, Fedor Emelianenko, bien trop méconnu du grand public. Comparé à des McGregor, tout ça, mais légende.
C'est une légende absolue. C'est une véritable légende. Et en fait,
c'est un OG.
Je pense que c'est un des premiers combattants modernes, au sens où on va dire, quand on regarde l'évolution des arts martiaux mixtes, à l'origine, on avait justement des combattants qui étaient spécialisés dans certains domaines. Royce Gracie, par exemple, avec le jiu-jitsu brésilien. Don Fry, plutôt pour la boxe anglaise. Mais. Les premiers combattants qui ont vraiment essayé de faire des arts martiaux mixtes et de mêler comme ça des techniques de lutte avec des techniques de striking, on pourrait penser à Matt Hughes par exemple, Fedor en est vraiment pour moi le meilleur représentant. C'est, honnêtement, je suis assez d'accord avec le constat qui est de dire qu'il était probablement le combattant de MMA parfait à son apogée, parce que pour avoir regardé plusieurs de ses combats et avoir choisi celui contre Krokop, non, il avait vraiment 10 ans d'avance sur tout le monde, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est un mec qui, en fait, c'est ça. C'est ce que tu dis. Il était vraiment en avance sur son temps.
Clairement.
C'est surtout ça.
Non, c'est ça.
En plus, petite particularité de ce combat, c'est qu'il n'avait pas lieu dans une cage, mais sur un ring.
Tout à fait. Parce donc c'est vrai que du Price, c'était un ring, ouais.
C'est ça. Donc c'est vrai qu'en termes de tactique, c'est différent parce qu'il n'y a pas les phases de clinch. Voilà. Donc ça rajoutait un petit peu. Un petit peu de piment, exactement. Tout à fait.
Clairement, ouais.
Parce qu'il n'y avait personne pour te tenir derrière une fois que tu étais dans les cordes.
Non, et puis les règles qui étaient beaucoup plus. Beaucoup plus barbares, quoi. Le coup des genoux et des coups de pied qu'on pouvait donner au visage. Non, c'était que lorsque l'adversaire était au sol, ouais.
La première fois que tu as vu ce combat, qu'est-ce que tu t'es dit?
Honnêtement, parce qu'on m'en avait parlé pendant longtemps, mais en fait, j'avais jamais fait l'effort de le regarder en entier. Quand je l'ai regardé, et surtout depuis que je me suis mis à pratiquer du MMA, non, vraiment, j'ai été honnêtement assez émerveillé par Fedor. C'est-à-dire que c'est tellement fluide, tellement propre, tellement bien pensé. C'est surtout ça, j'ai essayé d'accentuer ce point-là dans ma chronique, mais il est tellement intelligent. C'est vraiment, on a l'impression, alors qu'en face, c'est quand même Mirko Krokop, mais on a l'impression qu'il comprend en fait ce que son adversaire va faire avant même que le round commence, avant même que son adversaire mette au point sa stratégie. C'est vraiment, il est extrêmement. C'est un combattant qui est très très cérébral et surtout qui a une. Peut-être dans ses échanges, qui a un côté parfois un peu trop sauvage dans sa boxe, mais il a quasiment rien à redire en fait.
C'est ça, mais en plus, on parle souvent un petit peu, comme tu as dit, de l'intelligence de combat et du fait d'être complet. On en parle souvent ici, comme quoi c'est peut-être la chose la plus importante dans le MMA. Et en plus, pour le coup, on voit que c'est vraiment sa force parce que quand on voit des photos de lui et tout. Par rapport à Mirko Krokop, qui est quand même un petit peu plus large et tout, plus costaud, Fedor Emelianenko, il est intimidant quand même, mais il ne paye pas de mine par rapport à Francis Ngannou qu'on peut avoir et tout.
Il n'a pas un physique ni même une taille qui prête particulièrement à être effrayant, mais c'est c'est l'aura, on va dire, qui génère le fait que, par exemple, pendant les face-à-face, il regarde pas son adversaire dans les yeux, mais en fait, il lui lance une œillade qu'au dernier moment pour lui donner un peu cette impression de, justement, d'être complètement, de pas avoir d'âme, en fait, d'être juste une machine. Il y a plein de, le fait qu'il vit complètement reclus, je crois encore à l'heure actuelle, dans, au fin fond de la Russie, qu'il parle pas anglais, donc il y a pas d'échange, en fait, avec son adversaire, ni, il est quasiment impassible, il sourit et il ne rit presque jamais. Il y a plein de choses qui contribuent même involontairement à créer une pression psychologique sur son adversaire, mais c'est surtout qu'il est, non, je pense simplement il était né pour être vraiment pour être combattant de MMA parce qu'il a, et même à l'époque où il a justement commencé sa carrière, il a vraiment pris de l'avance sur ses contemporains, quoi. Il avait vraiment une faculté à lier le sambo avec la boxe anglaise, avec le muay thai, avec le judo. Enfin, c'était vraiment assez incroyable.
Voilà, donc voilà pour cette chronique. Fedor Emelianenko, légende du MMA. Si vous ne connaissiez pas et que vous vouliez vous intéresser un petit peu au MMA, vraiment allez voir ses combats et dites-vous que c'était il y a 20 ans. Voilà. Donc vous comprenez un petit peu l'avance que ce mec avait sur tout le monde. Voilà du coup pour cette petite chronique. On va faire une dernière petite pause musicale. On va s'écouter Freedom de Dean Burmigo feat. Nemir. Et on revient juste après pour le fameux quiz. Allez, à tout de suite.
Différent de ceux qui ne pensent qu'à s'imiter entre eux. Chaque missile est dangereux, la critique est en feu quand je kick ça. Je fais halluciner les envieux qui me disaient prétentieux et irrévérencieux. Gars qui dit quoi maintenant que je vide ça. Leur manque de vision et d'ambition, j'en ferai pas les frais. Rimé en français, je suis l'un des meilleurs qui l'ait jamais fait. En deux grands, je peux prendre ce jeu en le gant, je veux. Plus je prends des coups, plus je deviens dangereux, c'est vrai, ouais. Les petites pointures observent nos arrivées en grande pompe. Mais je serai quelqu'un le jour où on pourra me voler sans que je m'en rende compte. En attendant, jour et nuit, eux seuls nous rendent bruts, indépendants, authentiques, t'es bien chez Maison Grand Cru.
Ici pas de test, lève ton majeur, oh oh oh, freedom. Pas de peste, pas de menton, oh oh oh, freedom. À ceux qui parlent sexy, dis-leur que je suis oh oh oh, freedom. Dis-leur que je suis oh oh oh, freedom. Mec en microphone, oh oh, freedom.
On est comme les dieux de l'Olympe, on préfère rester entre nous. Dès qu'on se mêle au commun des mortels, ça crée des légendes cheloues. Des bandes de loups, le ventre nous est prêt à rendre coup pour coup. Tiens qu'ici t'as rien sans rien, faut tenter le tout pour le tout. Homme de terrain fait pour l'action, pas pour contempler le jeu. Hautement vicieux, trop ambitieux pour me contenter de peu. Enfin, j'invente rien, j'ai faim, comprends le bien. T'as 1 million, prête-le-moi, j'en fais un deuxième et je te rends le tien. On prend de l'âge, on veut prendre le large, mais pour ça faut de l'argent. Et faire de l'argent, ça coûte de l'argent. Tout est fait pour que les riches restent riches et que les pauvres restent pauvres. Et même quand leurs portes semblent ouvertes, au fond leur maison reste close.
Ici pas de test, lève ton majeur, oh oh.
Bagarre Club.
On est de retour en direct sur Prune. Vous écoutez toujours le Bagarre Club. On a déjà vu un petit peu les actus. On a eu la chronique mythique de Lounis. Maintenant, place à la dernière partie de notre émission. Le quiz. Le grand quiz, le grand affrontement, le main event de cette émission.
Quiz pour le titre intérimaire.
Non, pour...
Pour le titre intérimaire.
Ça. Allez, c'est ça. Donc, quiz que j'ai préparé, qui opposera donc Hugo et Lounis. Quiz qui sera en 5 rounds. Donc, vous gagnez le round, ça vous fait un point. Le meilleur des 5 rounds. Enfin, voilà. Donc, du coup, ça va faire sur 5 points au total. Bref, et celui qui a le plus... je me perds dans mon explication, c'est Kata.
Tu veux qu'on lance le jingle et après tu nous expliques ?
Vas-y, fais ça, lance le jingle, fais-nous rêver.
C'est parti.
Du coup, on reprend l'explication. Quiz en 5 rounds. Chaque round va être un type de question, une catégorie différente. À chaque round, vous marquez un point. Et c'est le meilleur du coup des 5 rounds qui remporte ce quiz. Voilà, c'est nettement mieux et nettement plus clair. Donc, est-ce que vous êtes prêts, les gars ? Ça y est, les bandes sont enfilées, les gants sont... Voilà, c'est bon.
Pas de casque, pas de protège-tibia.
C'est ça. Donc voilà, le face-off est fait, place au combat.
Moi je touche pas les gants moi.
Le premier round, je l'ai appelé Say My Name. Pourquoi je l'ai appelé comme ça ? Je me suis inspiré d'un des derniers quiz du
coup. Dis mon nom,
tout à fait. Tout simplement, je vais vous donner les pseudos des combattants et vous allez devoir me dire de qui il s'agit. Mm-hmm. Par exemple, on a eu la chronique mythique de Lounis juste avant. Si je vous dis The Last Emperor,
Mirko Prokop.
Hugo qui était en train de dormir pendant la chronique. Donc voilà, vous avez le concept. Vous êtes prêts ?
Oui.
Le premier, The Sniper.
Nassourdine Imavov.
Ça fait un point pour Lounis. Le deuxième, Bullet.
Valentina Shevchenko.
2-0 pour Lounis. Troisième, The Highlight.
Justin Gaethje.
Vous l'avez dit en même temps, ça va faire un point chacun. Trois.
Bah, du coup, vas-y.
Non.
Tu peux faire juste 2-0 et dire égalité.
Oui, c'est vrai.
C'est plus simple, je pense.
T-City.
Brian Ortega.
Ça fait 2-1. Funk Master.
Aljamain Sterling.
Bien joué.
3-1. Durinho.
Gilbert Burns.
4-1.
Ah ouais.
Bam Bam.
Tu y vas ça.
4-2. Il en reste 3. Rien n'est joué. Hiron.
Mike Tyson.
Non, mais vraiment, c'est vrai, mais
du coup, on est dans le MMA.
C'est Michael Chandler.
C'est un boxeur, quoi.
C'est évidemment Michael Chandler.
Ah, oh, je panique, là.
On finit. Alors, Lounis a déjà gagné ce round. On finit quand même pour la beauté, parce que j'ai quand même préparé les questions, mine de rien.
Oui.
Magnum.
Zangueli.
C'est une très bonne réponse. Putain. Fils de. Oh, le dernier, El Matador.
Yatopoya.
Vous l'avez dit en même temps, ou moins, mais très très gros premier round de Lounis qui remet l'église au milieu du village.
C'est pas fini.
Voilà, donc,
il a remis Lounis les points sur les i, les barres sur les t.
Exactement, Lounis qui démarre très très fort avec ce premier round. Le deuxième round, ça va être la mort subite. Donc c'est une question qu'on a déjà fait un petit peu dans les quiz précédents. Je vais vous donner une catégorie, on va dire. Et chacun à votre tour, vous allez devoir me citer un combattant ou une combattante qui rentre dans une catégorie, alors pas une catégorie de poids, mais voilà, un type de...
Et ou
un thème, on va dire.
Oui, mais un combattant et une combattante ou un combattant
non,
ou une combattante.
Peu importe.
Okay.
Le thème, du coup, de cette mort subite, ça va être parmi les combattants actuellement dans le top 15 de l'UFC, donc
peu
importe le poids.
Voilà, c'est ça. Vous allez me citer ceux qui ont 25 victoires ou plus.
Elle était insupportable.
Lounis, tu as gagné le premier round. Je te laisse le choix si tu souhaites commencer ou pas.
Ouais, je commence.
Je te laisse... vas-y.
Dustin Poirier.
Dustin Poirier, c'est une bonne réponse.
Justin Gaethje.
C'est une bonne réponse.
À toi,
Lounis.
Islam Makhachev.
Islam Makhachev avait 25 combats, 25 victoires tout juste. C'est une bonne réponse.
Charles Oliveira,
c'est évidemment... Une bonne réponse, je trouve plus. Charles Oliveira, c'est une bonne réponse.
Largement.
Oui, c'est une bonne. Pardon, 34, je ne le retrouvais plus dans mes petites notes. Lounis.
Jim Miller.
Jim Miller.
Est-ce qu'il est classé?
Il n'est pas dans le top 15.
Ah, mince, je viens de perdre.
J'y ai pensé, ouais. J'y ai pensé, mais...
Jim Miller n'est pas dans un top 15 d'une catégorie à l'UFC. Défaite de Lounis, voilà, Hugo qui remonte très bien sur ce deuxième round. On avait Jessica Andrade avec 25.
Max Holloway,
tout à fait. John Jones avec 27. Mmh. Alexander Volkov, 37. Jiří Prochka avec 29. Jan Blachowicz, 29. Nikita Krylov, 30.
Stipe Miocic.
Non, je crois qu'il est moins. Il est à moins, il me semble. Ouais.
Un truc de fou.
Nikita, Anthony Smith, 37. Sean Strickland, 28. Robert Whittaker, 25. Chris Curtis, 31. Neil Magny, 29. Kevin Holland, 25. Marachev, on a dit. Oliver, on a dit. Gaethje Poirier, on a dit. Rafael Dos Anjos, avec 32. Bobby Green, avec 31.
Abrège. C'est trop long.
Drew Dober, on y est presque. Drew Dober, 27. Volkanovski, 27. Holloway, 25. Et Pantora, 27. Voilà donc pour le round 2. Ça fait un round partout. On va passer au troisième round. Troisième round, je l'ai appelé le parcours du combattant. C'est-à-dire que je vais vous donner trois combats qui sont, alors pas forcément à la suite, mais qui sont au moins dans l'ordre chronologique. Et vous allez me dire à quel combattant ce parcours correspond. Par exemple, si je vous dis victoire contre Aldo, défaite contre Khabib, défaite contre Poirier, vous me dites
bah, McGregor.
Voilà, par exemple. C'est un exemple, ça ne compte pas. Voilà pour ce round. On va passer au premier combattant. Victoire contre Joël Alvarez. Défaite contre Mateusz Gamrot. Victoire contre Beneil Dariush.
Armen Saroukian.
Hugo a été plus rapide. Un point pour Hugo. Deuxième combattant. Victoire contre Victor Belfort. Victoire contre Glover Teixeira.
Jiří Prochka. Ah non.
Victoire contre Cyril Gane. Lounis, c'est à toi parce que Hugo, t'as déjà dit une réponse.
Tu peux redire les trois.
Victoire contre Victor Belfort. Victoire contre Glover Teixeira. Victoire contre Cyril Gane.
John Jones.
C'est une bonne réponse.
Contre Glover. Ah bah oui, ouais, c'est vrai.
Ah purée, mais c'est vrai.
Il a raison.
Victor Belfort.
Ouais, il y a longtemps.
Ah, c'est ça qui m'a induit en erreur. Victor Belfort, je l'avais pas, ça par contre. Mais,
et
okay.
Si. Ça fait un partout sur ce round. Prochain combattant. Victoire contre Henry Cejudo. Défaite contre Henry Cejudo.
Davison Figueiredo.
Dimitri Johnson.
Putain. C'est une bonne réponse.
Yes.
Et putain, le dernier, je les confonds, ça m'énerve.
Et le dernier, j'avais noté victoire contre Rod Tang.
Ah.
Ah ouais.
C'était pas vraiment MMA, mais c'était un combat un peu hybride, boxe thaï et MMA. Donc voilà, victoire par soumission d'ailleurs, Demetrius Johnson. Donc ça fait 2-1 pour Lounis sur ce round-là. 1-1 du coup sur les deux rounds. Prochain combattant, victoire contre Chad Mendes. Défaite contre Petrian. Défaite contre Merab Dvalijili.
José Aldo.
C'est une bonne réponse.
Bien joué.
Ouais, victoire contre Chad Mendes à la décision, défaite par TKO contre Petrian et défaite contre Merab à la décision.
Bien joué.
Très bonne réponse de Lounis, ça fait 3-1. Qui s'assure du coup se rendre. On va quand même faire le dernier. Surtout que le dernier, je l'aime bien, il me fait rire. Défaite contre Kamaru Usman, victoire contre Kamaru Usman, victoire contre Kamaru Usman.
Léon Edwards.
C'est une bonne réponse.
Il était rigolo.
Voilà, donc je me suis dit, s'il y avait eu égalité à 2-2 à ce moment-là, ça aurait été marrant de faire ça. Donc voilà, c'était le round 3, nouvelle belle victoire de Lounis sur ce round.
Donc 2-1.
2-1 sur l'ensemble des 3 rounds, ça se rend coup pour coup.
C'est bon, ça peut le faire.
Round 4, ça va être le qui suis-je. Je vais vous faire la description d'un combattant, donc des infos les plus futiles aux infos les plus importantes. Le premier qui me dit de quel combattant il s'agit gagne le round, sachant que vous avez le droit à seulement 3 réponses chacun.
D'accord.
Voilà, ça évite que vous spammiez un petit peu les réponses comme ça pour rien. C'est parti. Je suis né le 16 avril 1990 à Rio de Janeiro au Brésil. Abandonné par mon père à ma naissance, c'est ma mère qui m'éduquera seule, moi et mes deux frères. Dès mon plus jeune âge, je commence le jiu-jitsu brésilien ainsi que le muay thai. Je commence ma carrière professionnelle de MMA en 2007 par une victoire contre Antônio Carlos.
José Aldo ?
Pas du tout, en 2007 il était déjà au top.
Non mais
ce n'est pas José Aldo. Je commence donc ma carrière professionnelle en MMA en 2007 par une victoire contre Antônio Carlos par une clé de bras au premier round. Je participe à de nombreux combats pour plusieurs organisations différentes, telles que le Shoot au Brésil ou le Watch Out Combat Show.
Abandonné par son père ou par sa mère ?
Anderson Silva. Anderson Silva.
Ce n'est pas Anderson Silva.
Non, il était à son top en 2007.
Hugo, il te reste plus qu'une chance.
Okay,
Charles Oliveira.
Ce n'est pas Charles Oliveira. Lunis, il te reste deux chances. Mon style de combat très complet me permet d'afficher un palmarès de 16-2 avant ma signature à l'UFC.
Gilbert Burns.
Et mon premier combat en avril 2017, ce n'est pas Gilbert Burns. Il vous reste une tentative chacun, il ne va pas falloir se rater. Avant ma signature officielle, je participe à l'émission The Ultimate Fighter au sein de la team Cerrudo. Je fais un beau parcours, mais je m'incline en demi-finale contre Hiromasa Ugikubo. Lors de cette expérience, je parviens malgré tout à défaire des combattants tels que Brandon Moreno ou Kaikara France. C'est Alexandre Pantora.
Oh,
très bonne réponse, Hugo, qui égalise donc sur ce deuxième round. Exactement. Donc, je vous fais la suite. Je parviens malgré tout à défaire Brandon Moreno et Kaikara France. À l'heure actuelle, je comptabilise un bilan de 27 victoires pour 5 défaites. C'est le 8 juillet 2023 que j'atteins l'apogée de ma carrière. Au terme d'une véritable guerre, je parviens à défaire sur décision partagée mon adversaire du soir, Brandon Moreno, le champion de la catégorie poids mouche. C'est ainsi à mon tour de récupérer la prestigieuse ceinture. Je défends une nouvelle fois mon titre contre Brandon Royval dans un combat une nouvelle fois très spectaculaire. Actuellement dans l'attente de ma prochaine victime, afin de marquer un petit peu plus le nom d'Alexandre Pantora dans la légende. Voilà donc, victoire d'Hugo, ça fait 2-2. Sur l'ensemble des 4 rounds, on est dans le scénario que j'espérais. On va passer au 5e et dernier round. Type de question que j'avais déjà fait lors de mon précédent quiz. Je l'ai appelé « Choisis ton destin ». Donc, il y a égalité. Il va y avoir 3 catégories. Vous allez devoir choisir une catégorie, chacun. À l'intérieur de ces catégories, il y a une question facile sur 1 point, une question moyenne sur 2 points, une question difficile sur 3 points. Pour savoir qui choisit en premier, je pense qu'on va faire un Shifumi. Voilà, donc en une manche, vous êtes prêts, je fais l'arbitre. Prêt. 3, 2, 1, go. Pardon. Shifumi. Victoire d'Hugo. Hugo, tu seras le premier à choisir ton thème. Les thèmes, les voici. Il y a les champions intérimaires, le MMA hors UFC, et évidemment, le thème mystère.
Je sens que le thème mystère, cette fois, c'est une carotte, alors que la dernière fois, c'était un petit cadeau pour moi. Donc là, je vais partir sur... C'est quoi, moi, j'aime le challenge, je vais partir sur le thème mystère.
Le thème mystère. Eh bien, le thème mystère, il sort un petit peu des sentiers battus. Je sais pas. Mais il n'est pas moins intéressant. Il est dans l'actualité. En plus, le thème mystère, c'est les films sur un sport de combat.
Ok, ça va.
Lunis qui regrette, qui aurait adoré ce thème. Voilà.
T'aurais gagné.
Lunis, grand cinéphile. Donc, première question facile. Qui sera l'acteur principal du remake du film Roadhouse qui sortira dans 2 jours?
Jake Gyllenhaal.
C'est une bonne réponse, ça fait 1 point.
Si j'avais dit Conan McGregor, tu l'aurais pas accepté?
Non, parce que c'est l'acteur secondaire.
Je me suis demandé lequel tu voulais.
Non. Question donc moyenne sur 2 points. À 2 ans près, en quelle année est sorti Rocky III, l'œil du tigre?
Tu me fais chier avec... Je déteste les dates. Rocky III... Je vais dire 1998.
C'est une mauvaise réponse.
Eh, mais rigole pas avant.
Lunis, tu l'as peut-être?
Je crois que c'est 82.
C'est une bonne réponse, dommage.
Il est trop chaud.
Franchement.
Oh donc, la vache.
Franchement, les auditeurs, ils s'y méprennent pas. Hein. Ils savent très bien qui...
mais on sait très bien qui est le vrai cinéphile ici.
Ah, tout à fait. La dernière question, non moins facile du coup, sur 3 points, question difficile. Dans le film Warrior, réalisé par Gavin O'Connor en 2011, qui partage l'affiche avec Tom Hardy?
Hardcore, celle-là.
Non. Attends. Attends. Je vois son visage.
Ah ouais.
Ah, mais vraiment. Ah non.
Elle ressemble un peu à Chelsea.
Son prénom, c'est Marc.
Ouais, de ouf. Non.
Non, c'est pas ça? Attends.
Non.
Attends, comment il s'appelle? Attends.
Alors, l'acteur que je cherche, du coup, c'était pas... Parce qu'en gros, du coup, c'est un combat entre un père... Enfin, c'est 2 frères qui s'affrontent et il y a le père qui est un peu au milieu. Ouais. Je cherche l'autre frère. Tom Hardy joue un des 2 frères. Je cherche l'autre, pas le père.
Mais le frère, je vois qui c'est.
Honnêtement,
te jure je vois qui c'est.
Mais je pense pas que tu auras le nom. Denis, est-ce que tu l'as?
Le type qui partage... L'acteur qui partage l'affiche avec...
Ouais. Non.
C'est pas Wahlberg? Non.
Non, c'est pas Wahlberg. Alors, je peux poser une question.
Vas-y.
Est-ce que c'est un combattant de MMA ou pas? C'est juste un acteur.
Ah non, c'est juste
non,
un
non,
acteur.
C'est juste un acteur, mais.
Non, je crois que je l'ai pas, malheureusement.
Il s'agissait de Joel Edgerton.
Ah non, je l'avais pas du tout.
Donc, ah bah, c'est la question difficile. Hein,
je pensais que c'était Valberg, tu vois. Je sais pas pourquoi.
Ça fait donc un point pour Hugo dans ce round. Lounis, tu as le choix. Il te reste en catégorie les champions intérimaires ou le MMA hors UFC.
Les champions intérimaires, allez.
Les champions intérimaires, c'est parti. Tac, 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 c'est parti, question facile. Quel combattant français a été champion intérimaire des poids lourds de l'UFC en remportant son combat contre Derek Lewis ?
Cyril Gane.
C'est une bonne réponse, ça fait un point.
Austin au Texas. Et Houston. Houston.
Les précisions en plus, décidément. Il nous fait la totale aujourd'hui. Question moyenne. Nommez les deux combattants qui étaient champions intérimaires au moment d'affronter Khabib.
Alors, il y avait Tony Ferguson... Et il y avait champion intérimaire.
Ouais.
Au moment d'affronter. Et Dustin Poirier.
Alors moi, j'avais noté Gaethje et Poirier.
Ah
Il me semble que Ferguson n'était pas champion intérimaire.
Non, mais ça a été programmé. Ma réponse, elle n'est pas totalement fausse parce que ça a été programmé.
Ouais, mais ils ne se sont pas affrontés.
Ouais, c'est vrai.
Malheureusement. C'est vrai que quand tu m'as dit Ferguson, tu m'as mis le doute quand même. Mais,
ils ne se sont pas affrontés, mais ça a été programmé.
C'était.
Donc Gaethje et Poirier.
Gaethje et Poirier, malheureusement.
Ça a été programmé genre 5 fois oui. Ferguson, Khabib.
Ouais, oui, c'est vrai.
C'est le combat le plus maudit de l'histoire de l'UFC.
Question difficile. Alors parmi les questions difficiles, c'est peut-être la plus abordable de celles que j'ai faites.
On va voir.
Mais voilà. Quel est le nombre de victoires exactes de l'actuel champion par intérim des poids lourds, Tom Aspinall ?
Putain.
Le nombre de victoires exactes.
13.
C'est une mauvaise réponse.
Oh, putain.
C'était 14. C'est vraiment pas de chance.
Ah, pas loin.
Ça fait 1-1 et là vous allez me dire mais enfin, il y a égalité parfaite. Comment on va faire pour se départager ? Eh bien, il me reste le troisième thème, tout simplement. Donc, ça va se jouer à la vitesse, toujours le système de points. Donc, la troisième catégorie, c'est le MMA hors UFC pour vous départager au terme d'un combat au sommet. On a eu de tout.
C'est pas mal.
Là, franchement, on est sur un très, très beau quiz. Première question. Quelle organisation a récemment été achetée par le PFL ?
Le Bellator.
Vous l'avez donc dit en même temps. Et bon, on va passer aux deux questions suivantes. À deux ans près, en quelle année a été créée l'organisation britannique Cage Warrior ?
1997.
Ce n'est pas la bonne réponse.
1980.
Ce n'est encore moins la bonne réponse. Je vous laisse encore un choix chacun. Je ne vous dis pas si c'est plus tôt, plus tard.
2003.
C'est une bonne réponse.
Oh yes !
C'était 2001, à deux ans près. On est sur, on est dessus.
Je pensais que c'était plus
vieux, 2 points pour Lounis. Tout va se jouer encore sur la dernière question. Hugo, tu es obligé de l'avoir. Et tu peux l'avoir. Honnêtement, tu peux l'avoir.
Ok, ok.
Qui est l'actuel champion des poids plumes de l'ARES ? Oh, faut voir les visages tendus, notamment celui d'Hugo. Champion des poids plumes. Est-ce que je peux donner un indice ?
Est-ce qu'il est français ?
Il est français. Ha, ha, ha. Franchement, je vais vous donner un autre indice, mais qui va vraiment vous
mettre sur la voie.
Ouais, c'est ça. Il est notamment frère de
Taylor Lapidus, Damien Lapidus.
C'est une bonne réponse, Hugo.
Bien joué.
Ouais. Voilà, Damien Lapidus, du coup, que en plus on peut raconter la petite anecdote. Que
Damien
tu as...
Lapidus, que j'ai rencontré sur un tournage, sur le tournage de la série La Cage de Franck Gastambide sur le MMA qui va sortir bientôt. Donc voilà, j'ai pu discuter avec lui un peu. C'est un mec super sympa. Voilà, très bonne ambiance. Si vous me verrez à ses côtés dans la série.
C'est ça. Donc si jamais vous regardez la série et que vous voyez quelqu'un soulever Damien Lapidus avec des cheveux longs, eh ben, c'est
moi.
Voilà, c'est notre cher chroniqueur du Bagarre Club qui est là.
J'ai checké Bosch aussi.
Voilà, moultes anecdotes sur ce tournage. Victoire d'Hugo, vraiment. Bon,
sur le fil.
Ouais, victoire controversée parce que je t'ai aidé.
Tu nous as aidé tous les deux ?
Oui, c'est vrai.
Je l'avais juste pas.
C'était vraiment très. C'était Lounis, sur le fil de ouf.
Donc, Hugo, tu auras la chance de m'affronter pour le prochain quiz. Lounis, du coup, tu auras ça comme mission. Ça prépare le petit quiz.
En tout cas, Lounis, bravo pour les très réponses que tu as données.
Franchement,
techniquement, c'était magnifique.
Ouais. En plus, il avait le Rocky 3, il avait la date de Rocky 3 pile. Ça, c'est assez dingue.
Ça, c'est fou.
Voilà, donc pas
comme
de chance,
quoi,
malheureusement.
Je suis un mec qui vit dans le présent, là où l'UNIS est plus dans le passé.
C'est ça. L'UNIS est dépité.
Je suis vraiment un sommet.
Mais tu vas nous préparer un super quiz.
Mais je ne gagnerai plus jamais un quiz, en fait. Ça fait 5 fois qu'on fait des quiz et que je les perds. Moi, je me contente de préparer les quiz à partir de maintenant.
C'est pour ça qu'il faut retourner en sparring et gagner des sparring. Tout ça, ça ne gagne pas un sparring, mais bref.
Voilà, donc c'est la fin de cette émission, une émission un petit peu plus légère que d'habitude, ça fait du bien aussi. Merci à tous de nous avoir écoutés, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle émission du Bagarre Club. N'oubliez pas, la première règle du Bagarre Club, c'est qu'on parle du Bagarre Club. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager l'émission, à en parler autour de vous, à nous suivre sur Instagram et Twitter, @lebagarreclub. L'émission sera disponible très bientôt, en podcast, demain, voilà, donc sur prune.net et sur... Spotify
et Apple Podcast.
Et Apple Podcast, tout à fait. Merci à vous. On vous souhaite une très bonne soirée sur Prune. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Bagarre Club. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée.